Bonsoir, doit-on craindre un avis de tempête sur les mers du globe? Non, je vais pas vous parler de météo, mais de ce qui apparaît comme un réarmement mondial, spécialement naval, principalement en Asie, où la Chine pousse ses pions. Puis là-dessus, vous ajoutez quelques échauffourées industrielles pour faire émerger ou tenter de faire émerger des géants capables de rivaliser avec les nouveaux acteurs. Tenez par exemple le rapprochement entre Fincantieri et Naval Group. Alors est-ce le retour des batailles navales? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, les meilleurs, comme tout au long de cette saison qui va prendre fin d'ici quelques jours, avant les grandes vacances. Bien entendu, tenez, il y a Olivier Martin, qui est secrétaire général du groupe MBDA, qui est le leader européen dans la conception de missiles, de systèmes de missiles, air, terre, mer, bien sûr. C'est une filiale commune d'Airbus, de BAE Systems, de l'italien Leonardo. Alors peut-être que vous n'achetez pas forcément ces produits durant les soldes, mais enfin bon, voilà, il y a le Meteor, le Viper, le Sea Scepter, l'Exocet, et puis le petit dernier, le plus petit, le MMP, on en reparlera peut-être. David Bavrez, investisseur, il est installé à Hong Kong depuis 2011, grand spécialiste de la Chine, auteur de Paris Pékin Express, et qui signait ce matin dans le quotidien L'Opinion, cette tribune Chine-États-Unis, chronique d'une bipolarité annoncée. On verra justement comment les Européens peuvent réagir, y compris les Européens de l'armement, justement. Mathieu Pechberti, bien sûr, grand reporter à BFM Business, a surveillé absolument après-demain, mercredi, dans l'hebdomadaire L'Express, son enquête Bataille navale. Et puis avec nous François Lambert, délégué général du GICAN. C'est le groupement des industries de construction et des activités navales qui fédère plus de 180 industriels de la filière maritime française. Alors, pêle-mêle, les chantiers navals, les équipementiers, la construction navale de défense, la protection des océans, les infrastructures portuaires. Voilà, donc je vous le disais, les meilleurs, ils sont là ce soir. Alors, je le disais, la Chine, elle pousse ses pions. Témoignage de ce qui s'est passé il y a 3 mois, Mathieu Pechberti, avec ce défilé hors norme en mer de Chine.
Oui, c'est un petit peu symbolique, mais la Chine a réalisé un défilé naval assez impressionnant début avril au large de la mer de Chine, de quasiment l'ensemble de sa flotte. Il y avait une cinquantaine de navires, alors évidemment. Un porte-avions, le dernier né, qui est un porte-avions 100% chinois, c'est le deuxième, je crois.
C'est le 002, exactement.
Ouais. Une série de navires chinois, voilà, avec évidemment le président chinois à bord, pour montrer au monde entier que la Chine est une puissance non plus émergente, mais qui est bel et bien émergée aujourd'hui.
Et d'ailleurs, le livre blanc chinois écrit en 2015 expliquait clairement, noir sur blanc, qu'il voulait passer de puissance continentale à puissance navale. Voilà.
Oui, complètement. Et puis si on projette plus loin, une puissance quasi mondiale, ou en tout cas régionale au niveau asiatique. Donc c'est un peu comme les chars russes sur la place du Kremlin, c'est-à-dire montrer au monde entier que la Chine n'est plus un pays émergent, qu'elle fait partie des puissances qui comptent. On le sait quand même déjà, mais là c'était quand même une démonstration de force, évidemment destinée aux Américains qui mettent souvent en avant leur flotte mondiale.
Et qui ne sont jamais très très loin, évidemment, dans cette mer de Chine, justement. Oui, défilé hors norme. En 10 ans, Mathieu Pechberti, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Chine s'est construite l'une des plus belles flottes mondiales.
Oui, c'est quelques chiffres. Lors des 3 dernières années, la Chine a construit une cinquantaine de navires. C'est l'équivalent de la flotte française. Alors, la flotte française n'est pas très très grande, mais tout de même. Alors, c'est pas encore au niveau de la flotte navale américaine. Je crois qu'il y a une douzaine, vous me comptez, mais une douzaine de porte-avions.
C'est ça.
La Chine en a deux, elle en aura bientôt trois.
Voilà, les États-Unis, pour donner un ordre d'idée, Mathieu Pechberti, c'est en effet 10 porte-avions, voilà. 600 bases militaires à l'étranger. Pour l'instant, Pékin, ils ont 2 porte-avions, dont le dernier qui avait été inauguré à Dalian l'an dernier, en 2017. Bon, qui est quand même, c'est pas forcément le plus performant, qui va rester cantonné dans la région parce qu'il est pas assez long, justement. Et puis Pékin n'a qu'une seule base militaire, c'est à Djibouti pour l'instant, l'instant.
Oui, qui est quand même stratégique. Mais donc voilà, la Chine n'est pas encore au niveau d'égaler les États-Unis, mais elle est quand même en train de développer de manière très très forte. Quelques chiffres quand même pour donner un ordre de grandeur. Le budget militaire américain, alors tout confondu, militaire pas que naval, c'est 650 milliards de dollars. La Chine, alors les chiffres Il y a beaucoup de contestations parce qu'on ne sait pas d'où il sort, mais ça,
vous le David, il va nous le dire.
Moi, mais je l'ai fait vérifier par des spécialistes. On parle de 230 milliards. Ouais. Alors, si on met tout dedans, ouais, en gros, autant, hein. Voilà, les Russes, on est à 65 milliards, l'Inde aussi. Et puis c'est surtout des budgets qui sont en croissance permanente. Ah bah,
c'est surtout ça. Oui, dites-moi, François Lambert, vous le délégué général du GICAN, comme le dit Mathieu, la Chine, elle a une vraie boulimie pour construire des navires de guerre, des sous-marins, des frégates lance-missiles, des navires ravitailleurs, des porte-avions, celui de Dalian, justement, reconnaissable avec son pont qui est incliné quelque part. Hein. Oui, François Lambert.
Oui, la Chine a évidemment entamé une offensive hein, qui n'aura échappé à personne. Mais la force des industriels français est précisément dans ce combat qu'on veut mener à l'export. Alors, c'est un combat qui a été entamé il y a plusieurs années, précisément parce que les budgets de la défense ont entamé une chute hein, il y a à peu près 25 ans. On peut estimer que la loi de programmation militaire, puisque vous parlez de la loi...
On va en reparler.
La loi chinoise, la loi de programmation militaire française, la précédente, était la première loi à l'équilibre depuis une vingtaine d'années. La nouvelle loi de programmation militaire, adoptée récemment, permet justement, pour ce qui est du marché domestique, mais évidemment, on va parler du marché export aussi, pour ce qui est du marché domestique, de satisfaire un certain nombre d'industriels, notamment dans le secteur naval.
Mais j'étais étonné par ce que me disait Mathieu tout de suite, la Chine qui se réarme quelque part. En quelques temps, ils ont réussi quelque part à avoir autant de navires que notre propre flotte. Et pourtant, on a quasiment la première ou la deuxième mer dans le monde, François Lambert.
Oui, le ratio est parfois compliqué à comprendre. La deuxième surface maritime mondiale ne donne pas forcément la deuxième puissance maritime mondiale. J'ai souvenir même d'un député devenu président de l'ADEME qui parlait de deuxième puissance, impuissance maritime mondiale devant l'incapacité qu'on peut avoir à couvrir l'étendue de notre surface maritime. Donc ce rapport n'est pas un rapport de cause à effet. Bien évidemment, le chiffre que vous donnez, je ne le conteste pas, la création... en 3 ans, 4 ans, de l'équivalent de la flotte française.
En 4 ans, ils ont réussi à construire l'équivalent de la flotte française.
La flotte française, c'est de mémoire, c'est à peu près 80 navires, une cinquantaine de navires de navires de surface, porte-avions, sous-marins, etc., et une trentaine de navires de soutien, 25 à 30 navires de soutien.
Ils ont des sous-marins nucléaires comme nous ? Non, quand même pas. On ne sait pas. Olivier Martin, secrétaire général du groupe MBDA, vous les voyez, vous, ces Chinois, ils participent à tous les appels d'offres, ils sont partout, justement, peut-être même à votre détriment, je ne sais pas.
Alors, effectivement, ils sont depuis plusieurs années de plus en plus présents sur le marché, non seulement mondial, en Asie, bien sûr, mais de plus en plus également en Europe. Ils n'ont pas encore gagné de grands contrats à l'exportation. Toujours une barrière non seulement technologique mais également de soutien qui les gêne un petit peu, et puis il y a une barrière politique qui les gêne également, mais en tout cas ils sont de plus en plus agressifs, soutenus d'ailleurs, comme vous l'avez dit, par des investissements importants depuis de nombreuses années, et également soutenus par une volonté au travers des marchés d'exportation de s'implanter et de s'allier avec des pays, notamment des pays de l'OTAN. Par exemple, la Turquie a été un des exemples, même si aujourd'hui le contrat n'a pas été signé, mais la Turquie a failli effectivement il y a quelques années acheter un système de défense de missiles tout à fait impressionnant venant de Chine.
Voilà, une nouvelle façon pour la Turquie peut-être de se distinguer justement dans le contexte politique. Oui, François Lambert, le GICAN. Mathieu aussi, vous nous direz ou pas si les Français ou pas sont exclus des appels d'offres par les Chinois.
Pour abonder dans le sens de Monsieur Martin, ce qui est également marquant, c'est l'évolution des technologies dans la vente à l'export des Chinois. Très clairement, le design d'un certain nombre de navires ressemble assez fortement à un design qu'on pouvait avoir uniquement en Europe. Les grands donneurs d'ordre européens, je pense à ce qui s'appelait DCN, ce qui s'appelle toujours BAE, ce qui s'appelle toujours TKMS, ce qui s'appelle toujours Fincantieri, ce qui s'appelle toujours Navantia, mais avec l'apparition de chantiers chinois depuis, chantiers asiatiques d'ailleurs plus largement depuis une quinzaine d'années, dont les produits, dont les designs sont extrêmement proches de ces produits européens des années des années 95-2000.
Et quelle conclusion, quelle interprétation, quelle leçon vous en tirez?
Une interprétation qui est liée à la capacité qu'ont eu ces pays et qu'a eu notamment la Chine à pouvoir construire des technologies équivalentes à celles dont on pouvait disposer dans les années 80-95.
Ils ont un peu de retard, clairement.
Ils ont un peu de retard, oui, par rapport à ces technologies-là. Après, moi, il m'appartient pas d'évaluer la capacité de ces produits-là. Mais non, c'était plutôt pour insister sur la nécessité du maintien des compétences et de la R&D qu'on doit pouvoir préserver en France. L'importance des programmes études amont qui a été revalorisée par la ministre dans le cadre de la nouvelle loi de programmation militaire est absolument essentielle pour préserver ce qu'on appelle la base industrielle de technologie et de défense. Ils sont passés d'environ 750 millions d'euros à 1 milliard d'euros dans la loi de programmation militaire, et c'est ce qui va nous permettre de préserver cette avance, tant pour le marché domestique, puisque c'est avant tout à raison de cette souveraineté nationale que la BITD se manifeste, mais également dans une capacité à l'export à conduire de grands contrats, et c'est l'exemple de Naval Group avec le sous-marin australien.
Oui,
et c'est d'autres types de prospects qui existent aujourd'hui dans lesquels les industriels français doivent arriver en ordre de bataille plus resserré.
Tout juste pour ça, on en reparlera justement comment les Français, les Européens en général, eh bien doivent arriver justement en rang serré. Tiens, vous nous direz aussi, David Bavresse, parce que c'était au cœur de votre papier ce matin dans l'Opinion, la réplique de l'Europe. Heureusement que l'Europe a encore la technologie, hein, c'est ce que vous nous disiez. Oui, Mathieu Pechberti, les Chinois sont partout au point parfois de aller donner des petits coups de boutoir aux industriels européens ou pas?
Ah oui, en tout cas, ça commence. Ça fait plus que commencer. D'ailleurs, ça commence à s'établir. Hein, les industriels français, évidemment, se plaignent, constatent que les Chinois sont de plus en plus présents. Il y a un appel d'offres qui est beaucoup parlé en ce moment, qui a lieu au Brésil pour des navires militaires, où le français Naval Group est candidat, où il y a des Espagnols, où il y a des Italiens, où il y a des Allemands. Bref,
et il y a des
Européens en ordre dispersé. Il y a trois offres chinoises et voilà, les Européens se disent, en tout cas les Français se disent que si les Européens étaient regroupés, peut-être qu'ils auraient la chance de gagner face aux trois Chinois. Donc c'est extrêmement compliqué. La Chine devient un concurrent extrêmement sérieux, et d'autant plus sérieux que eux s'organisent pour justement se concentrer et être encore plus forts. Alors il y a l'effet de taille, déjà c'est compliqué pour les Européens, mais eux-mêmes s'organisent. Voilà, on parle beaucoup du rapprochement des deux leaders du naval militaire en Chine, hein. Ils le font d'ailleurs dans d'autres secteurs, hein. Dans le nucléaire aussi, par exemple, il y a eu des rapprochements de la consolidation, parce qu'ils savent bien que leur grande force, c'est la taille. Et donc, pour gagner dans cette grande bataille et écraser le reste du monde face à leur match, finalement, face aux Américains, eh ben, c'est la taille qui comptera. Et c'est là où les Européens sont en train de perdre.
Alors justement, la taille de ce pays, le poids de ses habitants, David Bavresse, faut nous en parler. Sous Xi Jinping, la Chine, elle a augmenté régulièrement le budget militaire. Elle revendique la souveraineté de son pays sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. On voit ces petits îlots qui sont contestés, hein, régulièrement, qui sont contestés aux Japonais, qui sont contestés aux Philippins, qui sont contestés aux Vietnamiens également. Voilà, donc la Chine essaie de rattraper son retard, d'acquérir un statut, justement, de s'affirmer dans ce contexte de tension. Pourquoi la Chine, elle s'étend comme ça sur les mers? Pourquoi elle a choisi les mers?
Ben, je crois que ce qui me frappe, moi, c'est pas tant la remontée de la Chine, qui est en fait un phénomène historique assez classique, c'est l'effondrement de l'Occident, et notamment des États-Unis, depuis 2 à 3 ans. C'est ça qui est surprenant. L'art de la guerre, d'après les Chinois, le premier art de la guerre, c'est de ne pas faire la guerre. Donc, et vous ne faites pas la guerre en divisant vos ennemis. Donc, ce qu'on a vu, nous, dans les affaires, au cours des 2-3 derniers mois, c'est l'éclatement de l'Occident, l'Europe et les États-Unis n'étant plus d'accord sur quoi que ce soit. Il n'y a plus de normes internationales. Et les Chinois vous l'annoncent très bien. Officiellement, ils disent on est pour le multilatéralisme. En réalité, ils vous disent le monde va être bipolaire. Et ce qui nous arrange, c'est qu'il n'y a plus de normes internationales. Donc, c'est le chaos. Ce que nous, Chinois, on sait parfaitement maîtriser. Et on se donne 5 ans pour venir. C'est trop tôt aujourd'hui, mais en l'espace de 5 ans, on pense qu'on va pouvoir imposer au reste du monde des normes chinoises. Donc on va finir avec des normes américaines et des normes chinoises. Et en réalité, l'Europe est complètement exclue de la carte.
Oui, on verra la réplique de Rome. Est-ce que vous nous dites quelque part, il profite un petit peu de cette division, de ce manque, pour quand même pousser leurs pions dans ces mers, sur les mers du monde, et spécialement les mers asiatiques?
Bien sûr, c'est un double mouvement. Vous accélérez, d'une part, et vous affaiblissez votre ennemi, d'autre part, en le divisant. Donc, en fait, moi, la question que je me pose, n'étant pas spécialiste de secteur, c'est cette division qu'on a vue sur le plan des affaires entre l'Europe et les États-Unis, est-ce qu'on va la voir également sur le plan militaire?
Mathieu Pechberti, oui, c'est quoi la stratégie de la Chine de s'étendre comme ça sur les mers? Ils cherchent quoi exactement? Il y a du militaire, il y a de l'économie,
alors, et puis
y a probablement
les deux,
en même temps.
Y a les deux, de toute façon, dans l'industrie militaire, ce n'est jamais que l'un ou que l'autre. Alors évidemment, sur l'aspect, on va dire, business, commercial, il y a des routes commerciales à protéger, évidemment l'accès au pétrole, aux matières premières.
Les nouvelles routes de la soie aussi, voilà, qui vont émerger en 2049.
Le Moyen-Orient, c'est l'Afrique, et puis... il y a des positions stratégiques à l'intérieur du continent asiatique qui est, on va dire, le terrain de jeu, le premier terrain de jeu de la Chine. Après, le terrain mondial, il sera peut-être plus difficile à disputer aux Américains. Mais l'Asie, voilà, on a vu les Chinois se sont pas mal implantés au Pakistan, par exemple. Alors, évidemment, le Pakistan, rival de l'Inde, elle-même rival de la Chine.
Bien sûr.
On est dans les positions.
Tout s'agite,
on est dans la géostratégie. Ouais. Et l'essor de la Chine... fait peur à ses voisins, hein. Ce qui explique très bien d'ailleurs le patron de Naval Group, c'est que l'une des raisons pour lesquelles l'Australie nous a acheté à nous Français des sous-marins, c'est aussi en réaction par rapport à l'essor de la Chine. On voit qu'il y a des pays dont vous parliez tout à l'heure, hein, la Malaisie, l'Indonésie, qui eux-mêmes, alors se réarment, ils n'étaient pas totalement désarmés, hein, mais en tout cas relancent un petit peu la construction de navires militaires.
On voit la Malaisie, l'Indonésie qui achètent aux Sud-Coréens également.
Il y a un petit symbole, hein, les Japonais ont fait changer leur constitution récemment pour pouvoir reconstruire
un semblant militaire. De début d'armée, ce qui était parfaitement interdit évidemment depuis
la fin de la guerre,
1945.
Voilà, donc il y a ce que les militaires appellent cette notion d'état-puissance, hein, qui est la France a peut-être connue il y a de nombreuses décennies, mais donc c'est valable aujourd'hui pour la Chine. Et puis petite chose pour finir, c'est aussi valable pour la Russie. Et je pense que dans le monde multipolaire que vous décriviez. Il y a un rival qui est à la fois un rival sans être un ennemi total de la Chine, qui est la Russie, et qui elle aussi appuie pour diviser les Occidentaux. Alors Vladimir Poutine n'est pas aussi puissant que la Chine, mais quelque part il y a ce monde quadripolaire, les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine.
Hein. Ce que vous expliquez très bien dans l'extrait, je vous donne la parole David juste après, on voit l'industrie navale russe qui s'est restructurée pour donner naissance à ce géant naval OSK, et on voit Poutine qui en a fait vraiment une arme d'influence mondiale et qui applique sa stratégie d'état-puissance et qui va exporter là où sont tous ses intérêts géostratégiques, Inde, Vietnam, Algérie, Iran, etc. Voilà.
Oui, on le connaît mieux dans d'autres secteurs un peu plus connus, Gazprom évidemment dans l'énergie, Rosatom pour le nucléaire, on connaît moins, en tout cas le public connaît moins l'industrie navale, mais c'est cette logique-là. Et en fait, c'est une logique qui marche dans des industries militaires où il n'y a pas de logique uniquement business. Nous, en France, on essaie d'avoir cette logique, c'est un peu compliqué.
Alors, David Pavrez.
Je voulais juste rappeler que la Chine, en une année, augmente son PNB du PNB de la Russie. Donc, la Russie est une puissance pauvre. Ça donne un ordre de grandeur. Donc, Chine et Russie, on peut pas les mettre tout à fait sur le même plan. La seconde chose que je voulais, c'est revenir sur les routes de la soie, qui est un programme à la fois économique et géostratégique. Et on voit à court terme qu'il est seulement géostratégique. Ce programme, essentiellement, consiste à prêter à des pays, en les surendettant, Djibouti, le Sri Lanka avec Abantota, le port du Pirée. La Chine profite à court terme pour prendre en fait les goulots d'étranglement géostratégiques sur les routes maritimes qui vont compter demain.
Olivier Martin, secrétaire général de MBDA, le premier missilier européen.
Oui, je voudrais pas être aussi catastrophiste quand même que ce que j'entends.
On observe, hein, voilà.
Oui, mais
en même temps, c'est vrai. Est-ce que l'Asie, ça devient la zone de danger?
L'Asie devient le continent majeur sur le plan économique. Donc les appétits, évidemment, s'aiguisent. Et au sein de l'Asie, la Chine devient la première puissance économique de l'Asie et peut-être demain du monde. La Chine était très en retard sur le plan militaire. Donc on assiste aujourd'hui, certes, à un rattrapage rapide. Massif, on est encore loin, la Chine est encore loin des États-Unis, et certes l'effet masse, vous avez raison, est important, mais l'effet politique ou l'impact politique d'un achat d'armement est également essentiel. Est-ce que tous les pays d'Asie souhaiteront acheter des produits chinois en étant liés politiquement à la Chine? Je n'en suis pas sûr.
Non, je ne comprends pas non plus.
Et donc, je considère que je suis d'accord avec vous que l'Occident peut-être. On verra le sommet de l'OTAN cette semaine, ce qu'il va donner. Mais l'Occident est sans doute dans une phase d'affaiblissement. Les États-Unis dans une phase de reconcentration. Je suis pas très optimiste effectivement sur les États-Unis. Il reste néanmoins un chemin important pour la Chine pour rattraper les Américains, voire même les Européens sur le plan technologique. Encore. Ça prendra sûrement du temps. Après, la domination économique via l'exportation d'armement sur un certain nombre de pays européens, américains du Sud, voire africains, il y aura encore un peu de temps, et largement à mon sens.
Mais est-ce qu'on peut parler de réarmement? Est-ce qu'on peut parler de réarmement naval mondial, marine chinoise, marine indienne, marine russe, même en Amérique du Sud également François Lambert, délégué général du GICAN.
Oui,
c'est une vraie tendance, ça.
C'est une vraie tendance, et même marine française. Mmh. Marine française, je le disais tout à l'heure, avec la loi de programmation militaire, on peut s'enorgueillir aujourd'hui d'avoir un état puissance qui se reconstruit, qui a commencé à se reconstruire sous le quinquennat précédent avec une loi de programmation militaire à l'équilibre, des programmes sur lesquels nous on était vigilants avec les adhérents du GICAN et notamment MBDA qui compte parmi les champions nationaux, les champions européens qu'on peut avoir comme les mondiaux.
Olivier. On rappelle, il y a Airbus, BAE Systems et Leonardo, et c'est pour ça que vous avez raison de rappeler que c'est européen. Allez-y.
Donc sur européen. les programmes qui avaient été lancés, je pense au FREM, frégate antiaérienne, au renouvellement, ou à l'annonce du renouvellement sur les patrouilleurs, etc. Il y a une volonté aujourd'hui forte de l'État français pour son marché domestique d'amener à ce que vous appelez un réarmement. J'ajoute à ça, c'est extrêmement important que ce réarmement il amène également à des capacités de développement des industries françaises à l'export.
Et ce réarmement, est-ce que vous en profitez vraiment? Je reprends l'exemple que nous donnait tout à l'heure Mathieu Pechberti, qu'il cite dans l'hebdomadaire L'Express, justement, cet appel d'offres du Brésil. Bon, il y a Naval Group, d'accord, qui est candidat, il y a un Allemand, un Espagnol, un Italien, et puis des Chinois également, qui eux arrivent, trois offres. Est-ce que vous en profitez systématiquement, ce réarmement, vous, les industriels français et européens?
Bien sûr, c'est sur ce type, le terrain de jeu est mondial, si c'est ça que vous voulez évoquer. On est passé, quand vous évoquiez tout à l'heure le statut d'OSK, les Russes ont changé de statut. On est passé d'un monde où il y avait Rosenboron Export qui alimentait tout le bloc de l'Est, finalement à un monde où on a OSK aujourd'hui, on a Lockheed Martin, on a Navantia, on a Fincantieri, etc. Alors, si votre question se pose sous l'angle de la consolidation européenne, c'est quelque chose que nous plaidons évidemment. MBDA en est un exemple excellent, même si on est également à l'heure, l'actualité n'est pas seulement à l'OTAN, c'est aussi celle du Brexit, et c'est une préoccupation qui doit exister bien sûr au sein du groupe. Pour autant, la consolidation européenne, elle est éminemment importante dans le fait d'aller à l'export sur ce type de marché. Bien entendu, le franco-italien, on a également un axe franco allemand très fort qui est annoncé par le gouvernement, et il faut pouvoir en profiter pour être encore plus compétitif à l'export.
Olivier Martin, MBDA.
Oui, alors effectivement, c'est sans vouloir faire l'historique de la société, ça fait une vingtaine d'années que l'ancêtre d'MBDA a commencé en Europe, et aujourd'hui donc nous représentons l'un des trois grands acteurs missiliers dans le monde, deux étant américains, les Chinois et les Russes sont encore derrière. Et c'est sans doute un des rares secteurs de la défense où l'industrie européenne dispose d'un champion de cette taille-là. Ça nous permet, étant à la fois français en France, anglais en Angleterre, italien en Italie, allemand en Allemagne, de pouvoir proposer à l'ensemble de nos partenaires dans ces différents pays nos matériels, qui sont par ailleurs tout à fait appréciés, et qui nous permettent de disposer donc d'un accès à un marché export essentiel. Pourquoi il est essentiel, le marché export? Je passe sur l'aspect politique et l'importance pour les pays comme la France, la Grande-Bretagne ou autres, d'être associés à des grands partenaires grâce à ces marchés d'armement qui sont des marchés stratégiques. Mais pour l'industrie, c'est l'accès à ce qu'on appelle la taille critique, disposer d'une taille économique suffisante pour pouvoir supporter la course entre guillemets à la technologie qui se développe énormément. Et les pays, le marché purement, alors je ne dis même pas français, mais purement européen, qui ne représente que 20% du marché mondial dans le domaine de la défense, le marché européen n'est à lui seul pas suffisant pour permettre l'émergence de ces champions européens qu'on attend.
Je donne quelques chiffres. C'est vrai que MBDA a connu une formidable année, donc 2017, avec un chiffre d'affaires qui est passé de 3 à 3,1 milliards d'euros. Un carnet de commandes de presque 17 milliards. Comment vous dites ?
C'est surtout le carnet de commandes.
Oui, le carnet de commandes de presque 17 milliards. Belle année à l'export, hein, en 2017. Les Émirats, le Qatar, le Chili, l'Égypte. À propos de technologie, on va y revenir juste après avec vous, pardon, David Bavrez, mais vous avez créé votre propre structure pour attirer les startups. Vous avez l'impression que les armées ont bien pris le virage techno ou pas?
Alors, non seulement les armées, mais de façon générale, le ministère de la Défense, la DGA, et la ministre a récemment, d'ailleurs, s'est récemment exprimée très fortement sur le sujet. Vous parliez tout à l'heure de l'augmentation des budgets de R&T de 750 millions à 1 milliard en France. Il y a une volonté, je crois, politique, et qui est tout à fait légitime, parce que dans les start-up ou les PME, il y a des technologies et une flexibilité que, sans doute, on ne retrouve pas dans les grands groupes. Donc il est absolument essentiel que les grands groupes comme nous ou comme Naval Group développent avec leur écosystème de proximité, notamment start-up et innovation, des relations les plus étroites possibles. En tout cas, on est tout à fait volontaire pour cela.
François Lambert.
Très rapidement, juste pour cibler sur la question de l'innovation, pour rappeler que dans le cadre de la grande exposition qui s'appelle Euronaval et que nous organisons au Bourget,
c'est le grand salon,
le grand salon du naval de défense, nous organiserons un événement lié aux startups qui s'appelle Synovation, et on a 34 startups qui ont été sélectionnées. Je pense aux startups, mais quand vous parlez d'écosystème, Olivier, je pense également à tout ce qui est PME, à des chantiers dont on parle un petit peu moins, des plus petits chantiers de moyenne gamme, Socarenam, OCA, Quash, qui viennent remporter un appel d'offres au Moyen-Orient. Et c'est cet écosystème qui est important et qu'il faut valoriser à l'export.
David Bavrez, un mot, puis on revient juste après, justement, pour voir quelle peut être la réplique de l'Europe, l'Europe de la défense aussi, les mariages industriels à l'avenir. David Bavrez, investisseur.
Non, je vais juste ajouter, dans un monde bipolaire, États-Unis contre Chine, si on raisonne seulement en français et non pas européen, on finit comme notre Premier ministre il y a 15 jours en Chine, on repart avec les valises vides de contrats. Donc l'exemple, on l'a eu il y a 15 jours, on en connaît parfaitement les conséquences. Pendant ce temps, les Chinois, eux, pensent pan-européen, puisque le premier dépositaire de brevets l'an dernier en Europe a été le groupe chinois Huawei. Donc c'est quand même un paradoxe que les Chinois pensent pan-européen et que nous, Européens, on soit incapables de passer pan-européen.
Bien sûr. Bon, on continue dans un instant, justement. Est-ce que le retour des batailles navales, des batailles navales industrielles également, comment répond justement à ce réarmement, à cette montée en puissance de certaines puissances, on a cité la Russie et bien entendu la Chine. À tout de suite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, réarmement mondial, réarmement naval spécialement, et on voit comment certaines puissances en profitent, s'organisent justement pour à la fois investir les maires de la région, même au-delà, les Chinois notamment, et on voit les Chinois d'ailleurs qui cherchent à fusionner leur géant de l'armement, les Russes aussi avec le nouveau conglomérat OSK. Alors face à ça justement, comment doivent réagir les Européens? Mathieu Pechberti, vous signez donc pour BFM Business, c'est dans l'Express donc qui sort après-demain. Cette enquête intitulée « Bataille navale ». Et c'est vrai que pour tenter de résister, on voit le français Naval Group qui devrait boucler une alliance inédite avec son homologue italien Fincantieri. Ça ressemble à quoi? C'est prévu quand? Quelles en sont les conditions? Racontez-nous.
Écoutez, c'est une alliance qui, en tout cas, dont l'idée est dans les têtes des dirigeants français de Naval Group depuis longtemps, depuis 2 ans. Ils ont travaillé là depuis 1 an sur cette opération. Ils sont en train de l'annoncer. Il doit y avoir évidemment un volet politique très fort parce que ce sont deux groupes publics, du côté français et italien. Donc il y aura une sorte de grand raout politique dans les semaines à venir. Il n'y a pas encore
de date. Pays avec quelques tensions aussi économiques, politiques.
Voilà. Aussi, en plus, en ce moment, c'est un petit peu compliqué sur d'autres sujets. Mais en tout cas, l'alliance industrielle est voulue.
C'est toujours caricatural. On parle d'Airbus des mers.
C'est un journalistique. Donc on va la balayer. Voilà. Mais non, l'idée, ce n'est pas une fusion comme il y en a dans plein d'autres secteurs industriels, parce que c'est compliqué dans le militaire de faire des fusions comme ça. Il y a des enjeux politiques très forts. Donc l'idée, c'est que chacun des deux groupes va prendre une participation dans l'autre, 10% pour commencer, puis commencer à mettre en commun certains domaines. Alors évidemment, ils vont commencer par tout ce qui est recherche et innovation, entre guillemets le plus simple, et puis ils vont essayer surtout de répondre à des appels d'offres en commun, parce que l'objectif c'est quand même ça, c'est un, réduire les coûts, et deux, quand je dis supprimer un concurrent, c'est peut-être péjoratif, mais en tout cas,
je fais
en
sorte que, qu'il arrive un Italien,
qu'il y en ait cinq Européens, qu'il y en ait moins. Voilà. Le patron de Naval Group, Hervé Guillou, le dit à chaque fois qu'il propose, qu'il a déjà proposé cette alliance aux Allemands, qu'à chaque fois les Allemands l'envoient un peu bouler, pour le dire un peu de manière familière, et que donc cette Europe de la défense qu'on n'arrive pas à faire au niveau politique, dont certains disent qu'il faut qu'elle soit industrielle pour être ensuite politique, on n'arrive pas non plus à la faire au niveau industriel, donc bref, le serpent se mord la queue. Et moi, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est quand même le constat aujourd'hui, c'est que il y a un Italien, un Espagnol, un Français, un Anglais, enfin bref, il y a un acteur dans chaque grand pays de l'Europe des six.
Les industriels que vous êtes, François Lambert, le délégué général du groupement des industries de construction et activité navale, le GICAN, Olivier Martin, secrétaire général du groupe MBDA, le premier missilier européen, au-delà de ce cas précis, c'est bien d'envisager ce type de rapprochement. Allez, un mot chacun. François Lambert.
Non seulement c'est bien, mais en plus c'est indispensable. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord pour dire que l'Europe de la défense ne se fait pas. Elle se fait pas à pas. Vous avez un sujet qui est le Fonds européen de la défense, qui aujourd'hui monte en puissance, qui est absolument inédit en termes de visibilité pour les entreprises européennes. Vous avez également des très belles réussites.
Oui, optimisme. Regardez, par exemple, prenons l'exemple de l'avion de combat du futur. Comment est-ce qu'on construit un avion européen en donnant du travail à tout le monde, en ne vexant personne, en respectant les égos allemands, britanniques, français aussi? Qu'est-ce qu'il doit avoir la main? On n'y arrive jamais, cette histoire.
Je partage pas votre pessimisme. L'Europe, elle s'est construite avec des besoins en temps. Il y a des chaînes de valeur à mettre en commun. L'exemple de la R&D que vous preniez est tout à fait édifiant. Et je pense qu'on pourra profiter de ce Fonds européen de la défense pour justement tirer le meilleur profit de l'utilisation de ces coopérations industrielles. Un mot uniquement sur Naval Group et Fincantieri. Il m'appartient pas évidemment de commenter tout ça. Mais entre les deux groupements, que sont le groupement français, le GICAN et Assonavé, les discussions existent, elles se poursuivent autour d'une feuille de route en matière de R&D que nous essayons de partager à l'échelle européenne. Ce sont des prémices, finalement, à cette Europe de la défense, Europe industrielle de la défense dont on parle. On est bientôt le 30 août, je sais qu'il y a eu le crime du 30 août 1954 avec la fin de la CED.
Premiers échecs de l'Union européenne, de la communauté européenne de l'époque.
Il ne faut pas rester derrière ce type d'image. Les choses sont en train d'évoluer, elles évoluent au plan industriel vers un modèle qui, c'est vrai, ressemble plus à Renault-Nissan dans ce partage d'actions que véritablement Airbus, mais il faut s'en satisfaire.
Olivier Martin, MBDA l'Europe, elle n'est pas éparpillée, elle n'est pas affaiblie, justement.
En fait, quand on parle de l'Europe, il faut bien savoir de quoi on parle. Il y a d'un côté les nations et les États européens qui constituent l'Europe, et il y a l'Union européenne qui est une aventure tout à fait passionnante. La défense reste et restera pendant très longtemps une affaire des États européens et des nations européennes. Pour ce faire, pour avancer, il faut que les nations européennes coopèrent entre elles, parce que pour les grands projets, vous avez parlé d'avions de combat, ce sont des projets énormes qui nécessitent des investissements énormes que pratiquement, en tout cas aujourd'hui, plus aucun État seul ne peut se payer. Dans le domaine des missiles, il y a déjà eu ce constat. Donc il y a une quinzaine d'années, il y avait 6 sociétés européennes différentes, concurrentes, qui se sont réunies, qui se sont regroupées pour faire une société qui aujourd'hui s'appelle MBDA. Je pense et je souhaite que le champion européen, si on peut le dire comme ça, dans le domaine des missiles, soit accompagné par d'autres champions européens, parce que c'est la seule chance pour l'industrie européenne de préserver ses compétences, ses capacités, sa compétitivité. Pour cela, il faut que les nations européennes le souhaitent. Sans l'accord des nations européennes, nous n'y arriverons pas. Les industriels seuls n'y arriveront pas. Et l'Europe, cette fois-ci je parle de l'Union européenne, c'est une initiative tout à fait intéressante qui est d'un montant tout à fait important par rapport au montant précédent. Le montant précédent, c'est 35 millions d'euros par an. Là, on parle de une 14 milliards sur 6 ans. Donc, on change d'époque, mais ça reste quand même un élément, entre guillemets, relativement modeste par rapport à la somme des budgets européens de défense de chacun des pays, notamment des grands pays. En particulier, je voudrais citer, je ne sais pas si vous avez cité tout à l'heure, M. Lambert, le Brexit, il est clair. que sur ce sujet-là, nous avons un...
C'est pour ça qu'on parle de nation européenne et de l'Union européenne. Le UK, est-ce qu'il doit continuer, à vos yeux, d'évoluer dans l'Europe de la défense? On a vu aujourd'hui tous ces soubresauts avec le départ de deux ministres, et dont le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Boris Johnson. Theresa May, elle redoute un déclassement de la défense du Royaume-Uni. Vrai, faux? Qu'est-ce qui va advenir justement du Royaume-Uni dans cette Europe de la défense?
Le Royaume-Uni est un acteur majeur sur le plan de la scène internationale, puissance mondiale, représentant permanent au Conseil de sécurité, puissance nucléaire, puissance européenne évidemment. Donc il est évident que, en tout cas pour moi, le Royaume-Uni doit rester d'une manière ou d'une autre un partenaire essentiel des pays européens d'une part, mais également de l'Union européenne. Certes, les discussions sont aujourd'hui difficiles, délicates, parce que elles sont dans un contexte politique très dur. J'espère, nous, en tant qu'industriels, que les incertitudes qui aujourd'hui sont présentes se lèveront. J'ai bien noté, comme vous, ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni. Le temps presse. Je reste néanmoins optimiste. Et lorsque, j'allais dire, les conditions du divorce auront été clairement actées, proprement actées, la négociation du partenariat nécessaire dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine de la défense, sera, je dirais, possible.
On peut attendre.
Et en tout cas, je ne suis pas sûr.
Ah bon,
je ne suis pas sûr. Et en tout cas, c'est l'intérêt de tous les pays européens, c'est l'intérêt de l'Union européenne et c'est l'intérêt de la Grande-Bretagne. À nous d'être intelligents.
David Babrez est avec nous, investisseur, auteur de Paris Pékin Express. Il est installé à Hong Kong, il connaît bien la Chine. Allez-y, on vous écoute, David Babrez.
Moi, je voudrais que l'Europe change de siècle. La complémentarité de cette puissance militaire au XXe siècle a été le soft power des Américains. Ce soft power, au XXIe, c'est le sharp power des Chinois. Le sharp power chinois remplace le soft power américain.
Donc, concrètement.
Donc, l'Europe au XXe siècle, ça a été les soft, ce qu'on appelle en anglais les soft skills, c'est-à-dire notre créativité, notre. Il faut remplacer ça par des hard skills, c'est-à-dire une puissance de négociation, et ça passe forcément par des groupes pan-européens. Parce qu'autrement, cette chronique annoncée d'un monde, d'une bipolarité, eh bien, c'est l'Europe qui en souffrira.
Il faut que l'Europe réagisse, l'Europe dépassée. Tiens, les États-Unis.
Le risque, le plus gros risque, il n'est pas à Pékin. Le plus gros risque, il est à Paris, dans notre ignorance de la Chine. C'est là qu'est le plus gros risque.
Et justement, quand je parlais d'Europe éparpillée, l'Europe affaiblie, alors par des budgets militaires, soit à la baisse, soit stagnant, soit progressant très légèrement selon les pays. Et vous avez eu raison de rappeler la loi de programmation militaire, donc en France. Les États-Unis, ils vont pas se priver de le rappeler, donc jeudi, vendredi, lors du sommet de l'OTAN, comme Trump l'avait fait l'an dernier, et là, il va peut-être revenir en disant, alors maintenant, où est-ce qu'on en est, les amis, Olivier Martin, MBDA?
Oui, alors je vais pas parler pour Donald Trump, j'en suis bien incapable, mais en tout cas, il est clair que c'est un enjeu très important. L'Europe est sans doute à un tournant. Elle ne peut plus, je pense, se contenter de rester sous le parapluie américain et d'avoir sa défense financée par les États-Unis. Bon, la France depuis très longtemps est sortie de cette voie. D'autres pays, peu nombreux malheureusement, tentent de la suivre. Il y a, je crois, une réflexion importante dans tous les pays européens à mener pour savoir si, compte tenu de l'évolution des menaces, quel est le meilleur scénario, les meilleures alliances pour préserver notre avenir face à ces menaces.
François Lambert, le GICAN.
Juste un chiffre ou deux. Une frégate, c'est 10 Airbus. Une frégate, c'est 100 000 Peugeot 208. Nous, on a trois défis très simples dans l'industrie française. Le défi des compétences et de leur maintien. C'est-à-dire qu'il faut attirer des jeunes et des moins jeunes, des gens qui sont en reconversion vers les métiers de l'industrie, vers les métiers de l'industrie de demain et d'aujourd'hui pour honorer des contrats. On a un défi qui est lié à la R&D. Avec évidemment la maîtrise de ce qui nous permettra de préserver une avance technologique, et je souscris à ce que vous indiquez, c'est-à-dire qu'il y a la politique des États, mais il y a aussi la politique industrielle elle-même, l'industrie qui doit se constituer, et c'est le cas aujourd'hui dans le cadre du Conseil national de l'industrie, puisque nous avons une filière industrielle de la mer, les industriels de la mer, dont la défense maritime, enfin la défense, le naval fait partie. Et puis le troisième défi, c'est le défi de la compétitivité. Donc il faut pouvoir être capable. Je crois que la réforme de la DGA doit pouvoir nous y amener. Elle a été annoncée la semaine dernière par la ministre. La DGA, la Direction Générale pour l'Armement, la le délégué général pour l'armement. Donc ça a été évoqué la
semaine dernière. Reste à savoir comment est-ce qu'on maintient une industrie européenne de la défense compétitive. Voilà.
Grâce à ces coopérations, grâce à ce maintien des compétences.
L'accès à la taille critique.
Non mais Mathieu Pechberti,
on revient sur des logiques quand même assez, enfin des logiques de taille mathusienne où si on suit, on n'a qu'à suivre la démographie. Hein, finalement, c'est assez simple. Hein. Encore une fois, quand on voit la manière dont les Chinois ont accéléré ces dernières années, la manière dont les Russes, l'industrie navale russe s'est restructurée à la fin des années 90. Enfin, on était quand même une dizaine d'années après la chute du mur.
Les Russes étaient quand même pas le pays le plus vigoureux du monde.
À terre.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Et nous, les Européens, je pense qu'on a aussi bien vécu sur les acquis. L'industrie européenne était flamboyante à l'époque. Et puis, ça s'est passé dans beaucoup d'autres industries. Regardez le nucléaire, une industrie qu'on connaît bien. Ça a été la même chose pour l'industriel, comme EDF, comme Areva.
Vous avez raison, sur le nucléaire, on a vu arriver des géants russes,
et les Chinois aujourd'hui.
Les Chinois, bien sûr.
Et les Chinois aujourd'hui commencent à créer leurs propres réacteurs nucléaires. Et ils font la même chose pour leurs navires. On en a parlé pour Airbus aussi, c'était la même chose. Ils ont aussi leur propre industrie aéronautique. Bref, les Chinois nous copient, nous espionnent industriellement. Hein, enfin, tout le monde le sait. Et effectivement, il y a cet effet de taille que eux ont, parce que c'est un seul et même pays, les Américains aussi, et nous...
Ouais, c'est plein de petits... Tiens, les Américains, la guerre commerciale menée par Trump, est-ce qu'il faut encore acheter encore en Europe du matériel américain ? Varsovie, Bucarest, qui ont acheté l'an dernier des missiles Patriot à votre concurrent Raytheon, l'américain, on est trop gentil parfois ou pas ?
D'abord, vous remuez le couteau dans la plaie, merci.
Ah oui, je l'ai, voilà.
Mais vous avez raison, il est clair que la préférence européenne dans le domaine de l'armement, de la défense, c'était un sujet ancien qu'il est très difficile de faire accepter par un certain nombre de pays. Et un certain nombre de pays, quand ils achètent un matériel de défense, ils achètent une alliance. Mmh. Et aujourd'hui, la Pologne, par exemple, achète l'alliance avec les États-Unis parce qu'elle considère que la protection américaine est plus forte ou meilleure que la protection française, allemande, britannique, voire européenne. Tant qu'on est dans cette situation-là, et ça sera effectivement pour ces pays-là, sans doute, malheureusement pour nous, en tout cas difficile d'envisager une préférence européenne.
François Lambert.
Je pense que tout est une question d'organisation. C'est aussi la faiblesse de la France dans le cadre de l'OTAN. Il y a un forum industriel qui existe. Ne me demandez pas de vous dire ce que veut dire l'acronyme, mais le NIAG, dans lequel nous sommes trop peu représentés, à la différence des États-Unis. J'étais moi-même en Roumanie il y a quelques semaines. L'ambassadeur américain a fait un discours juste avant le ministre de la Défense. C'est proprement un terrain de jeu sur lequel ils sont habitués à travailler et dans lequel nous on doit gagner et pouvoir gagner, continuer à gagner des parts de marché.
Les États-Unis font preuve d'agressivité commerciale, ils soutiennent trop leurs industriels aussi.
Ah, ils soutiennent tout à fait évidemment leur industriel, mais je répète, ils soutiennent à mon sens plus leur industriel pour des raisons politiques à l'exportation que pour des raisons purement et uniquement commerciales.
Mathieu Pechberti.
On est sur des industries de souveraineté, donc c'est pas que eux soutiennent trop leur industrie, c'est que nous, les Européens, nous ne le soutenons pas assez les nôtres.
Bien sûr.
Le patron de Naval Group racontait qui n'est pas une anecdote, une histoire comme quoi les Chinois ont vendu plusieurs navires militaires au Pakistan gratuitement, entre guillemets, évidemment pas pour leur faire plaisir, mais évidemment pour s'implanter au Pakistan, à côté de l'Inde, par rapport aux Américains. Nous, on ne le fait pas assez, on ne le fait quasiment pas. Les logiques, en tout cas pour l'industrie navale, sont très business, pas que business, on en a parlé tout à l'heure. Mais encore une fois, l'Europe ne soutient pas assez ces industries militaires. Et
l'industrie de la européenne des missiles, vous, Olivier Martin, secrétaire général du groupe MBDA, je disais, il y a une belle année à l'export en 2017. Vous profitez bien comme ça des tensions internationales. Quel programme vous lancez aujourd'hui? Beaucoup d'espoir, notamment porté par le tout dernier, le petit MMP, qui va équiper la cavalerie, qui va équiper l'infanterie, l'armée de terre d'ailleurs, qui a tiré à 5 kilomètres, d'ailleurs au-delà des 4 kilomètres donc que vous avez programmé. C'est quoi les nouveaux produits hors entre?
Tout à fait. Je voudrais simplement moduler. Les autorités, notamment françaises, depuis quelques années, et je pense avec la réforme de la DGA, va renforcer encore le soutien qui était très efficace à l'export, ce qui a expliqué les deux ou trois dernières années tout à fait remarquables.
Notamment l'Australie.
L'Australie, l'Égypte, l'Inde, le Qatar, etc. Donc il faut garder cela néanmoins. En fait. Sur les produits...
Oui, parlez-nous de vos produits, parce que c'est pas, je le disais, c'est pas le genre de choses qu'on achète forcément en magasin, en période de solde.
Sachez en gros qu'on propose tous les missiles possibles, sauf les missiles de la dissuasion de la force de frappe. Le dernier produit que vous mentionnez, effectivement, un missile qui s'appelle le MMP. Oui. C'est un acronyme pas très agréable peut-être à entendre. C'est un petit missile. C'est le successeur d'un missile qu'on a vendu à 450 000 exemplaires dans le monde à l'exportation, qui s'appelait le missile Milan. Et celui-là est effectivement un missile tout à fait révolutionnaire. Je ne sais pas si c'est l'objet de rentrer dans les caractéristiques, mais tant en portée qu'en pénétration.
Je vais
pas
en acheter spontanément à la fin de l'émission.
Je ne suis pas sûr que vous allez en acheter. Je suis même pas sûr que je sois autorisé à vous le vendre.
On va peut-être les voir sur le défilé du 14 juillet samedi.
Certainement.
On peut les voir à Euronaval.
Euronaval,
23-26 octobre. 25 000 visiteurs attendus, déjà. 400 exposants. On a plus de 35 pays qui participent. 12 pavillons nationaux. Et tout ça, c'est aussi la richesse de l'industrie française.
Alors vous voyez la polyvalence.
Évidemment, c'est un salon international. Pardon. Donc il y aura d'autres délégations. Mais je tenais quand même à le préciser, même si c'est un salon professionnel, c'est important pour nous.
Mais c'est bien, on en est fiers.
Vous voyez la polyvalence de ce produit qui est a priori destiné aux chars de combat. Oui. Et il arrive à être très présent dans un salon aéronaval. Oui. Et il est également sur des hélicoptères, il est également sur des drones. C'est effectivement un produit sur lequel nous comptons beaucoup à l'exportation.
Bon, allez, pour conclure, retour des batailles navales, une maritimisation de l'économie mondiale en général. Un mot, François Lambert du GIECAN, justement, cette maritimisation de l'économie, tendance forte.
Une tendance forte qui doit pouvoir s'accentuer et dans laquelle il faut préserver nos capacités de souveraineté, tant en matière industrielle qu'en matière de défense plus généralement.
Mathieu Pecheberti.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'industrie navale et la manière dont les États se développent et développent leur flotte est quand même l'illustration première, comme c'était le cas il y a 500 ans, du développement des grandes puissances, des empires. On le voit évidemment avec les États-Unis depuis maintenant plus de 60 ans, et on le voit avec la Chine. Et le revers de la médaille, c'est qu'on le voit aussi un peu avec le déclin ou la stagnation de l'Europe, des nations européennes.
David Bavrez.
Pour moi, cette industrie est l'illustration d'un monde bipolaire. Et le seul moyen de traiter la bipolarité comme maladie, c'est de faire du préventif. Donc là, nos industriels l'ont compris. Ce qui manque sur ce plateau sont des hommes politiques qu'il faut qu'on arrive à convaincre de faire du préventif.
Olivier Martin.
La maritimisation, bien sûr, se développe. On le voit, on voit le marché naval globalement qui se développe. En Europe, effectivement, une des faiblesses de l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers navals. Nous avons la chance de pouvoir proposer nos produits à beaucoup de partenaires et de chantiers navals européens. C'est une des chances d'MBDA. J'espère que ce champion européen naval viendra bientôt pour nous aider.
À suivre, Olivier Martin. Merci à vous, secrétaire général du groupe MBDA, le leader européen dans la conception de la fabrication de missiles. David Bavrez, Paris, Pékin Express. Il est investisseur installé à Hong Kong depuis 7 ou 8 ans. Mathieu Pecheberti, vous allez le dire, hein, vous l'entendez tous les matins. Il vient avec ses valises, ses malles de scoop, justement. Et vous allez donc, pouvoir le lire à partir de mercredi dans l'Express, dans son grand dossier. Bataille navale. Et puis François Lambert, délégué général du groupement des industries de construction et des activités navales, le GIECAN qui regroupe 180 industriels de la filière. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On revient très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.